Salaud, il faut tous écouter, même les enfants, et même les grands-enfants, les moyens grands-enfants, et les plus grands petits-enfants, et les petits-grands-enfants. Donc tout le monde. Eric nous sensibilisait tout à l'heure à la sensation qu'il avait que chacun était un peu fatigué et de l'attente. Et quand on est enfant, aussi on attend des moments. Et qu'est-ce qui vous aide à attendre votre anniversaire? Je vois les enfants. Hein, Sarah, qu'est-ce qui t'aide à attendre ton anniversaire? Le moi, ouais, ça t'aide à savoir quand ça va venir. Qu'est-ce qui vous aide à attendre les vacances qui n'arrivent peut-être pas ou qui ont été annulées au dernier moment? Qu'est-ce qui vous aide à attendre la sortie de la PS5? On m'a dit qu'elle était en rupture de stock et directement. Qu'est-ce qui vous aide à attendre patiemment? T'as une idée, Mathéo? C'est lui, il m'en indique. Qu'est-ce qui vous aide à attendre? Mais... Voilà. Allez, tout le monde rentre chez soi, les amis. La parole de Dieu. Notre Seigneur nous aide à espérer, à attendre, non pas que des choses terrestres, mais aussi être pleinement avec lui pour l'éternité. Souvent, on se débat seul hein, avec ces questionnements, et on n'a pas trop de solutions et on ne peut pas faire grand-chose. Et Dieu nous aide à attendre patiemment. Patiemment et impatiemment. Patiemment que les choses arrivent, avec impatience que ça arrive. Il y a ce double mouvement de patience et d'impatience. Et ce matin, je vous propose de regarder le psaume 110, qui est un psaume qualifié de messianique et qui nous aide à attendre. Le but de ce matin, c'est de vous montrer que David et le peuple attendaient la venue de Dieu, la venue d'un Seigneur, la venue du Christ. Je commence la lecture. Psaume 110, verset 1. Il n'y en a que 7, tout va bien. Psaume de David. Déclaration de l'Éternel. Il a dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte et du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré. Il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge des nations, les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Je vais prier. Notre bon Père Céleste, nous sommes face à ta parole. Nous voulons que encore cette parole nous nourrisse notre espérance, nourrisse notre connaissance de toi et nous aide à attendre. Seigneur, tu vois que ces difficultés dans ces textes, des mots des fois un peu compliqués, des choses qui peuvent nous choquer à la lecture. Mais je te prie, Seigneur, que nous puissions les comprendre grâce à ton esprit. Amen. Dans cette prédication, je veux aussi vous donner quelques clés pour essayer un peu une méthodologie pour vous aider à vous aussi de comprendre des textes de l'Ancien Testament qui peuvent un peu être difficiles. Et tout à l'heure, je le qualifiais, on dit que c'est un psaume messianique. Mais dire que c'est un psaume messianique, c'est déjà avoir fait a priori l'étude du texte. On ne peut pas dire sauter directement au Nouveau Testament. Le texte, déjà pour les destinataires de l'époque, avait quelque chose d'important à communiquer. Et j'ai été surpris hein, récemment, j'ai écouté une prédication sur ce psaume, et à aucun moment le prédicateur a parlé de David. Il est directement passé à Christ. Je ne sais pas si vous voyez un peu la trame de fond, pas de l'Église, de l'Ancien Testament, la vision globale. Vous vous rappelez la désobéissance d'Adam et Ève. Et par la suite, Dieu a usé de patience pour rétablir cette relation avec les hommes, avec les humains, qui s'entêtent de ne pas vouloir être avec Dieu, qui s'entêtent de vouloir faire les choses seuls. Dieu a envoyé des personnes pour conduire le peuple. On a Moïse, que vous avez, on a déjà survolé pendant les groupes de maison. Puis on a eu Josué, avec la conquête de la terre promise. Puis on a une période un peu sombre avec le livre des juges, avec toujours l'idée que le peuple voulait faire ce qu'il plaisait et pas rendre des comptes à Dieu, pas être en connexion avec notre Dieu. Et avec ce refrain, chacun faisait ce qu'il plaisait dans le livre des juges. Et on a une spirale infernale descendante avec des histoires assez glauques et assez barbares. Et on se demande même pourquoi tant de méchanceté, pourquoi tant de mal. Après ça, le peuple se dit, bon, on veut un roi humain, parce que en filigrane, derrière ça, c'est de dire qu'un roi comme Dieu, c'est pas terrible, il fait pas ce qu'on lui demande, il nous aide pas. Donc on veut un roi humain qui nous ressemble, comme les autres peuples. Et donc Dieu suscite un roi, c'était Saül, et dans une précédente prédication, j'avais fait un portrait un peu de Saül, il a mal tourné. On a eu David, qui semble aller un peu mieux, mais quand on regarde aussi de plus près, il a quand même fait pas mal de choses pas terribles, et avec des conséquences assez lourdes aussi. Et là, on est un peu à ce point de l'histoire où c'est David qui est là. On a le peuple qui est sous pression, le peuple qui doit combattre les ennemis, en tout cas le peuple qui est remis en cause par les étrangers. Le peuple vit un moment de difficulté et Dieu parle à David à ce moment-là. Dans ce psaume, je le laisse afficher exprès un petit peu, on a des trucs bizarres. Sans même parler de Jésus, verset 1, on a David, on a l'Éternel et le Seigneur. Dit autrement, on a David, le Seigneur de David et Dieu. Et on ne sait pas qui est le Seigneur de David, sans parler de Dieu. Pour le moment, il n'y a pas de lien avec Jésus. Pour David, il y a quelqu'un le plus grand encore. Et après, quand on regarde les interactions, qu'est-ce qui se passe entre ces gens ? On enchaîne avec le verset 2 et on a l'impression, parce qu'on n'a plus les guillemets. Verset 1, l'Éternel le déclare, guillemets, il cite, et au verset 2, il n'y a plus de guillemets. On se dit, mais ok, c'est un peu bizarre, c'est David qui va parler à son Seigneur pour lui dire ce qu'il va faire, comme si son Seigneur ne savait pas ce qui allait se passer. Dans le texte original, il n'y a pas de guillemets. C'est plus tard qu'on a ajouté des guillemets et cette difficulté, du coup, ne repose pas. En fait, c'est Dieu qui parle à David, ou en tout cas, c'est David qui retranscrit ce qui se passe entre Dieu et son Seigneur. David, à ce moment-là, est spectateur de la scène. Il fait juste une retranscription de ce qui se passe. Il est observateur. Observateur. Dieu dévoile le plan à David, ce qu'il va se passer. Et on voit que c'est une domination qui va se passer. Et déjà, pour les premiers destinataires, il y a quelque chose de grand qui va arriver. On peut se mettre un peu à la place des premiers destinataires. David voit ça, écoute ça, il dit, quelque chose de grand va arriver. Dieu va intervenir. On va enfin être délivré de l'oppresseur. Il y a de quoi leur redonner du courage et de l'espérance. Vous voyez que si on parle de guerre, on voit une personne qui siège à la droite, au verset 1 et 5. On retrouve des ennemis avec un combat violent, verset 1, 2, 3, 5. On a la question d'un pouvoir royal, verset 2 et 6. Un jugement des nations, un territoire qui va partir de Sion, qui va aller jusqu'aux nations, au verset 6. Il va partir d'une localité, il va conquérir tout le monde connu à l'époque. Et là, on voit que ce n'est pas un petit roi qui va combattre, mais c'est le Seigneur de David qui va combattre. C'est Dieu qui va intervenir par l'intermédiaire du Seigneur de David. Ce n'est pas David lui-même. Il y avait une promesse qui a été faite à David, qu'il y aurait toujours quelqu'un sur le trône, qu'il y aurait toujours quelqu'un en place pour la descendance et pour la grandeur du peuple. le peuple va gagner. C'est ce que Dieu leur dit par l'intermédiaire du Seigneur de David. Et le peuple va être enthousiaste. Et on voit un afflux de personnes au verset 3. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte. Il y a quelque chose de grand, de beau qui se produit déjà pour David, qui est observateur de la scène. Et en plus de ça, ce Seigneur qui va conquérir ne sera pas que roi. Il est dit qu'il sera prêtre selon la lignée de Melchisédek, comme vous le souhaitez. Melchisédek, on ne connaît pas grand-chose, hein. On a juste une apparition en Genèse, et dans Genèse 14-18, il est juste dit qu'il est roi et prêtre. On n'a pas d'autres apparitions dans l'Ancien Testament, on a dans le Nouveau, mais à ce moment-là de l'histoire, on ne connaît pas grand-chose de ce type, de Melchisédek. Et pour montrer encore que Melchisédek est grand, Henri Blocher, il dit que c'est la seule personne de l'Ancien Testament à qui il a le pouvoir. Il a deux offices, l'office royal et la prêtrise, et l'office de prêtre. On pourra discerner trois offices, roi, prêtre et sacrificateur. Melchisédek cumule des mandats. Et c'est la seule personne dans l'Ancien Testament de pouvoir cumuler ces deux qualités. Quelque chose de grand va arriver. Pour les destinataires de l'époque, quelque chose de grand va arriver. Il y a encore de quoi leur redonner de l'espoir et de l'espérance. Enfin, juste pour continuer en fait, j'essaie de vous montrer que déjà pour les destinataires, c'est quelque chose de grand. Avant de sauter à Christ qui va être encore plus grand, mais déjà pour les destinataires de l'époque, il y a quelque chose de grand qui arrive. Le livre des psaumes, vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, peu importe, on définit 5 livres dans les psaumes. Il y a 5 gros pavés. Et le psaume 110 appartient au 4e livre. Et un théologien, Wilson, il met en avant, il dit que les 3 premiers livres des psaumes sont axés sur la monarchie davidique, la royauté de David. Et le constat à la fin du 3e livre, c'est précisément l'échec de cette royauté. La royauté davidique ne marche pas. Et on voit ça à la fin du chapitre 3. Et selon, toujours lui, hein, Wilson, l'espérance dans le 4e et le 5e livre est transposée sur Dieu lui-même, seul véritable roi d'Israël. Nous sommes dans le 4e livre. L'espérance est transposée sur Dieu, sur le Seigneur de David, le roi d'Israël. David est spectateur de cette scène. David, qui est un type d'action, hein, il aime bien agir, il aime bien se mettre en mouvement, il aime bien combattre. Et là, c'est l'Éternel qui combat pour lui. Comment savoir si c'est un psaume qui nous parle de Jésus? Mais non, on veut aller plus loin dans notre compréhension. Et il y a une idée, c'est celle-ci. Il existe un sens plus profond. Et Matthew Saunders, pasteur d'une église baptiste à Paris, et qui a écrit un livre de compréhension de la Bible, d'herméneutique, il écrit dans ce livre, il ne s'agit pas d'un autre sens qu'il faut chercher à comprendre, qui se superposerait au sens dont l'auteur humain était conscient, mais plutôt d'un approfondissement du sens premier qui lui échappait et qui ne peut être comprise qu'à la lumière de son accomplissement en Christ. Vous voyez, quand on lit, ça c'est juste une parenthèse, hein, quand on lit des textes de l'Ancien Testament, des fois on peut switcher ou faire un parallèle assez trop direct et on oublie complètement le sens des premiers destinataires. Non, on a un sens plus profond à trouver dans l'accomplissement de Christ, mais il y a quand même un sens déjà premier qu'il faut étudier. Et pour vous aider, il y a ce manuel de lecture de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce psaume? Est-ce qu'il nous parle réellement de Christ? De façon à voir si c'est un psaume messianique, enfin une façon qui est sûre et certaine, est-ce qu'il y a des citations de ce psaume dans le Nouveau Testament? Et c'est ce que vous avez de la chance, on a de la chance. Il y a des citations dans le Nouveau Testament. Et ça, ça peut nous certifier que ce psaume nous parle de Jésus. Maintenant, s'il n'y a pas de citation, je vous encourage aussi à bien étudier, à rester prudent dans certaines affirmations. Qu'est-ce qu'il en est dit dans le Nouveau Testament ? Premièrement, on a Jésus, je vous en mentionne trois, qui va le citer quand il va parler avec les pharisiens sur son identité. À un moment donné, il y a les chefs des prêtres, les responsables du peuple, les pharisiens, les sadducéens. Ils veulent piéger Jésus pour le condamner. Et Jésus va leur poser une question sur son identité en citant ce psaume. Et il va leur poser, ok, de qui parle David ? Les pharisiens ne répondent pas à cette question. Ils savent qu'ils sont piégés, et ils savent ce que Jésus dit, et ils donnent l'impression d'être d'accord, mais en tout cas, ils ne répondent pas. Ils vont trouver d'autres moyens où ils vont arrêter, mais ils ne répondent pas à cette question, parce qu'ils savent que c'est une question piégeuse. Deuxième citation qu'on peut reprendre de ce psaume, c'est Pierre, dans les Actes. Et c'est assez intéressant, hein. Pierre va complètement expliquer la Pentecôte en démontrant que ce psaume pointait vers le Christ. Et que c'est Jésus que pointe David quand il parle du Seigneur. Voilà. Je vais juste vous le lire parce que c'est un texte important pour la compréhension aussi, pour le sens un peu plus profond de ce psaume. Au verset 34, je vais lire la conclusion, si vous voulez noter la référence pour la suite. Et conclut en disant, « En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Viens, siéger à mes droites, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre explique clairement ce psaume en disant que c'était Jésus qui est à la droite de Dieu. Hébreux, l'épître aux Hébreux, aussi nous rappelle ça. Il nous rappelle que Jésus est supérieur aux anges d'un premier temps. Hébreux chapitre 1, 5 et 7. Que Jésus a un rang bien plus supérieur que celui des anges, et que ce n'est pas un ange que Dieu a dit « Viens siéger à ma droite », mais c'est bien au Fils, à Jésus, en recitant ce psaume. Un peu plus loin, il nous reparle de ce fameux prêtre, Melchisédek. Et là, on a un peu plus de détails sur qui il est, sur sa généalogie, ou ce sera non-généalogie, justement. Et il va dire que Jésus est encore bien plus supérieur que Melchisédek. Ce Melchisédek qui a une lignée éternelle, comme on a pu le voir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite à plusieurs reprises ce psaume pour montrer que Jésus est bien celui qui pointait ce psaume. Ce Jésus est à la droite du Père. Et pour les premiers destinataires, il était déjà question que ce n'était pas un roi humain qui allait les délivrer, mais une personne très spéciale. Une personne qui serait prêtre pour toujours. Et pour les premiers destinataires, c'était déjà un message d'espérance. Dans un monde où on a vu que la monarchie humaine était incapable d'avancer, était incapable de pouvoir lutter contre les ennemis, était incapable de lutter sans Dieu. C'était pour les psaumes, pardon, pour David et les premiers auditeurs, c'était déjà un message d'espérance dans un monde où c'était impossible d'avoir une espérance. Et on peut supposer, en tout cas j'imagine, la réaction du peuple et de David, être tout joyeux et de repartir encouragé par cette vision de ce qui allait se passer. Dieu a promis dans ce psaume aussi un prêtre qui serait là pour toujours. Et il n'y aurait plus cette rupture de relation avec une succession de prêtres. Il y aura un prêtre qui serait là pour toujours. Encore une fois, c'était un message d'espérance pour les personnes de l'époque. David a aussi contemplé l'action de Dieu. Il a pris le temps d'écouter Dieu. Et voilà ce que Dieu a dit à David. Quand tu me laisses agir, voilà ce qui va se passer. Je vais rétablir une certaine justice. Mais il y a aussi un sens plus profond. Le Nouveau Testament nous rappelle notre incapacité à gérer sans Dieu. Nous rappelle que nous ne sommes pas capables de gérer sans Dieu à cause de notre désobéissance, de nos fautes, notre volonté n'en faire qu'à notre tête. Et comme David, nous sommes invités à laisser Dieu gérer les choses, à laisser conduire les choses, soit directement lui-même, soit en nous laissant renouveler par son esprit, en laissant son esprit nous travailler, et nous travailler nos cœurs, nous travailler pour espérer en lui. Dans la Bible, il y a des prières, des fois c'est « donne-moi plus de foi ». Des fois, on doit dire à Dieu « donne-moi plus de foi ». Et Dieu souhaite cette relation avec vous. Dieu souhaite être là pour vous et veut vous faire profiter de la vie avec lui, avec ses bienfaits. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous en voulez? Il ne nous oblige pas à l'accepter. Et pour nous qui vivons après la venue de Christ, nous savons que c'est Dieu, grâce à cet texte du Nouveau Testament, que c'est Jésus, envoyé par le Père, par Dieu le Père, qui est venu s'incarner, mourir à la croix, ressusciter, siéger à la droite du Père et dominer sur les ennemis avec le Père. Pour nous aujourd'hui, Jésus, notre prêtre, est déjà monté auprès de Dieu, est déjà à la droite du Père et il intercède pour nous auprès du Père. Et il nous garde dans sa main. Ce qui va changer par rapport à ce psaume, c'est que la bataille n'est plus humaine. Mais comme l'écrit Timothée Keller dans son livre de méditation sur le psaume, et notamment sur ce psaume 110, il dit qu'il y a une bataille à mener, mais avec les armes de l'amour, du service et de la vérité. Paul le rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et contre les dominations spirituelles. Le combat n'est plus humain comme à l'époque de David, mais ça se passe au niveau de domination spirituelle. Et les combats peuvent prendre différentes formes. Bien sûr, il y a toute cette forme de combat en nous qui nous empêche de croire, ou en tout cas qui nous pose des difficultés à croire et avancer avec Christ. Mais l'avantage de ces difficultés, c'est que Dieu les utilise aussi pour nous travailler, pour travailler notre foi, notre espérance, notre endurance, notre persévérance. C'est facile de dire que nous sommes persévérants quand tout va bien, mais quand les difficultés sont là, le sommes-nous toujours. C'est facile de dire qu'on a une foi stable, qu'on n'est pas interpellé par des personnes qui pensent différemment de nous. Mais une fois qu'ils nous posent des questions sur notre foi, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on répond? C'est des combats à mener, des combats aussi en nous, des combats à mener avec Dieu, par son esprit. Comment allons-nous les dominer? Allons-nous prier et demander l'aide de Dieu par son esprit? Tout comme David et les premiers auditeurs destinataires, nous sommes invités à attendre avec patience la venue de Jésus. Attendre avec hâte, avec impatience qu'il vienne, en travaillant notre relation avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit. Attendre sa promesse, la réalisation complète de cette promesse. Vous avez vu qu'encore il y a des ennemis, ou en tout cas, Dieu n'est pas encore là, avec le psaume, mais on peut dire qu'il n'est pas pleinement réalisé. Nous sommes appelés encore à attendre avec patience et impatience. Nous sommes appelés à le laisser agir et à prier et à combattre avec son esprit. Le psaume pointe bien vers Christ. Mais David avait déjà suffisamment d'éléments pour faire confiance en Dieu. Nous en avons encore plus. Nous qui vivons après la venue de Christ, nous avons encore plus d'éléments pour lui faire confiance. Dieu n'oublie pas vos souffrances. Dieu n'oublie pas vos combats, qui sont certainement très légitimes. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu reviendra, Jésus reviendra pour nous prendre, pour venir avec lui, pour terrasser tous nos ennemis ou toutes nos difficultés, pour mettre un mot un peu moins de guerre, peut-être, toutes nos grandes difficultés. Il a déjà fait des choses, il va encore nous surprendre. Mais dans ce psaume, ça nous questionne aussi. Où est-ce que nous situons ? Où est-ce que nous situons notre confiance en Dieu ? Où est-ce que nous situons notre attente pour la vie totale et permanente avec Dieu, sans mal, sans péché ? J'ai fait exprès de ne pas mettre le paradis pour montrer que c'est une vie permanente avec Dieu, sans mal. Où est-ce que se situe notre attente ? Comment faites-vous pour attendre ? Comment allez-vous faire cette semaine pour attendre avec impatience et impatience le retour de Christ ? Jésus revient bientôt. Et dans cette attente, Dieu vous dit : ne crains rien, je t'aime.